Bibliothécaire secrète.
Un changement de rythme, un changement de souffle, un changement de respiration. Et on va dire qu'on passe de l'idée de transmission à l'idée d'une réception par le choc. Et le choc va produire effectivement un changement de rythme qui sera plus quelque chose de fluide, mais quelque chose de saccadé, de syncopé. Et justement, effectivement, donc les choses ne s'agenceront plus, mais se juxtaposeront les unes aux autres.
Peut-être on pourrait parler de plans, presque, de plans horizontaux, mais de plans néanmoins,
qui s'imbriquent les uns dans les autres, ou qui s'imbriquent, en fait. Les choses sont à la fois articulées, mais sont effectivement mises dans un système d'avant, d'arrière, enfin, ça s'arrange plutôt comme ça dans la phrase, en fait. Ce qui donne des phrases très longues, très compliquées, qui jouent sur la subordonnée, mais en même temps plus... Enfin, qui détournent presque la subordination pour en faire effectivement une juxtaposition, une apposition, pour faire coexister les plans ensemble, en fait. Un lien qui se crée de cette manière-là. C'est ça que tu veux dire, ou... Peut-être. Alors, il y a sans doute, chez A, précisément, le désir ardent d'être un prolongement de B, en quelque sorte, voire d'être la main de B, ou l'écriture de B, le traducteur de B. Le terme de traduction, à mon avis, est très juste. Et là, il faudrait effectivement interroger le traducteur de A sur les textes, sur la musique de A. Très manifestement, la volonté, en écrivant sur B, de retrouver tous les plans orchestraux, en fait, et sonores, et la texture sonore de B, mais dans la langue, traduit dans le discursif, en quelque sorte. Donc nous disons A pour Adorno, B pour Berg.
Des définitions de l'apposition extraite du TLF. D'abord, ce peut bien être le problème d'une superposition, puisqu'il est bien une première acception selon laquelle l'idée dominante est celle de placer sur. L'apposition serait donc, à ce moment-là, exactement la même chose qu'une superposition, mais semble-t-il en mouvement, quand même.
Alors, c'est intéressant, parce qu'en réalité, ça déplace l'idée de juxtaposition et l'idée de superposition. Donc ça reprend même l'idée de plan que je te disais au départ. Donc il y a un musicien. Le musicien voit ses œuvres être représentées et rencontrer une opposition. Et quand le musicien peut constater que cette opposition n'est que politique, il se dit « la musique est sauve ». Le philosophe, qui est encore très jeune à l'époque, se dit « ah, ça ira. » Il lui répond « ah, ça ira. » Et en même temps, le philosophe soupçonne que dans cette opposition politique se loge aussi une opposition à la musique. Et que la musique ne peut pas être totalement séparée du problème politique. Donc, ce « ça ira », c'est l'espèce de terme commun qu'il essaye de trouver entre le musicien qui croit que la musique, à un moment donné, peut dépasser les antagonismes politiques et que les antagonismes politiques peuvent être anecdotiques pour la musique, du point de vue de la musique. Ils ne le sont pas en soi, c'est quelqu'un de très engagé, ce musicien, mais il se dit que la musique peut continuer, malgré la politique. Il s'apercevra que non, de toutes les manières. Et le philosophe essaye de lui suggérer que peut-être que non. Mais le philosophe est aussi tenté par cet optimisme-là, à cette époque. Et lui aussi constatera amèrement que non. C'est-à-dire que toute phrase est un aphorisme, et toutes les phrases se juxtaposent les unes les autres par des aphorismes. Et alors, là travaille la dialectique réellement, chaque phrase se confrontant, du coup, puisqu'elles sont apposées et non plus articulées, vont se confronter, se nier, donc, et on va arriver d'ailleurs à la dialectique négative par là. L'idée chez A est de casser l'espace commun du langage, qui est pour lui un espace culturel, et dangereux parce qu'il n'a pas été pensé, en fait. et dangereux parce que l'époque a montré aussi que cet espace culturel de pensée ou de commun était absolument pas maîtrisé et pouvait amener à la barbarie. Donc l'idée, c'est de casser tous les liens.
Dans un registre grammatical, l'alignement, mais non seulement syntaxique, mais aussi sémantique, l'alignement d'une proposition relative dans la suite d'une proposition principale serait donc une figure barbare ?
On peut peut-être aller jusque-là.
Et alors justement...
C'est-à-dire qu'elle crée un système de hiérarchie, d'une certaine manière, comme l'harmonie. Elle crée un système de hiérarchie entre les éléments. Donc cette idée de plan, et puis... Qui en fait est très travaille par la position, mais travaille aussi contre la position, puisque après tout, quand tu as des plans, il va falloir les faire se correspondre. Non, l'objet de l'entrechoquement, c'est la désagrégation. Mais vraiment, c'est-à-dire que tout ce qui va être lien, il faut le fragiliser, il faut le remettre en question, il faut le faire apparaître pour le casser, pour encore une fois qu'il y ait... Comment je pourrais dire ça ? On va dire qu'un mot a une sédimentation, et le terme de sédimentation, il l'emploie réellement, historique, culturel et social. Et dans une phrase, il faut réussir à faire ressortir ce mot pour que réapparaissent toutes ces strates de dépôt de l'histoire, pour qu'à nouveau... on reprenne conscience de quelque chose qui était de passer totalement dans l'inconscient et qui était quelque chose communément admis et qu'on reprenne conscience de ces liens qu'on a créés et qui sont forcément factices, voire très nocifs, en fait. Parce qu'ils nous font oublier la solitude de l'homme réel dans le monde moderne, c'est-à-dire, en fait, l'oppression presque que l'individu supporte sur lui par la société moderne et qui lui est masquée par un faux lien social qui lui est imposé par la société. Donc c'est à la fois la société désagrège et recrée un lien factice, mais on n'est pas loin de Debord hein, d'ailleurs là-dessus. Et au bout du compte, même la dialectique de la raison n'est pas loin de la société du spectacle à ce niveau-là.
Moi, ça me rappelle aussi le corps sans organes d'Artaud et Deleuze.
Oui, aussi bien. Donc on a d'un côté un musicien, de l'autre côté un philosophe. Et le philosophe est vraiment travaillé par cette problématique, et il l'est d'autant plus qu'il rencontre d'autres philosophes qui, eux, ont déjà beaucoup travaillé là-dessus. Je peux citer ?
Oui.
Benjamin, par exemple. Qui, alors lui, depuis 14, quoi, travaille sur ce problème de la transmission, sur ce problème de l'espace commun de pensée qui n'existe plus, sur le lien intergénérationnel qui n'existe plus, etc. Donc, et vraiment Adorno, et d'ailleurs, il fait la même chose avec B qu'avec Benjamin, en fait, c'est deux personnes dans lesquelles il va se lover. En quelque sorte. Et il va lover son écriture à l'intérieur de ces pensées-là. Alors, ensuite, il a sa propre pensée, bien évidemment, c'est pas ce que je veux dire. Mais il y a vraiment cette volonté de réconcilier ce qui se passe dans la musique et ce qui se passe dans la pensée à ce niveau-là.
Il y a une citation qui m'a intéressée, justement, dans l'article « Apposition du TLF » qui est extrait du Salon de Baudelaire de 1846. « Monsieur Victor Hugo laisse voir dans tous ses tableaux lyriques et dramatiques un système d'alignement et de contraste uniforme. L'excentricité elle-même prend chez lui des formes symétriques. Il possède à fond et emploie froidement tous les tons de la rime, toutes les ressources de l'antithèse, toutes les tricheries de l'apposition. C'est un compositeur de décadence ou de transition qui se sert de ses outils avec une dextérité véritablement admirable et curieuse. » Côté français, ça marche pas pareil. On a l'impression que Baudelaire prend peur d'une rondeur dans l'usage de la position.
D'une rondeur ?
C'est-à-dire de quand même participer de la suprématie de la proposition principale dans l'usage de la position.
Tu crois ?
C'est-à-dire que Victor Hugo serait un tel point dominant la position qu'il arriverait... tout en la démultipliant, a quand même que trop retombé sur ses pieds. Et donc avoir une langue que trop debout, en quelque sorte.
Absolument, effectivement du lien, en fait.
Du lien.
Mais pas Baudelaire.
Ah bah non.
Justement.
Justement, ouais. Oui, oui, justement.
Ouais, ouais. Ah oui, d'accord. Mm.
Justement, le poème en prose n'est-il pas...
Mais ouais. Absolument, absolument. Puis même dans le vers de Baudelaire, tout se brise. Et tout est un travail effectivement, de désagrégation. Alors, il y a un texte de A qui s'appelle Parataxe, par exemple, qui est un texte sur Hölderlin, et où le problème est le rapport de l'homme à Dieu, ou de l'homme au Dieu, et ensuite de l'homme sur Terre dans son rapport aux autres hommes. Et pour en arriver à la solitude de l'astre totalement solitaire, enfin complètement veuf de son lien au Dieu qui devrait le fonder en quelque sorte. Donc on arrive dans un monde sans fondement dont on a sapé à la fois le sol sur lequel les choses s'agencent et verticalement le fondement, la justification, la raison, etc. Pour A, le problème est vraiment de retrouver dans l'écriture la juxtaposition temporelle des notes et aussi les plans successifs de l'orchestre, etc. Donc il y a presque un travail de composition au niveau de l'écriture. Donc là, je suppose, se pose vraiment le problème de la virgule. Alors par ailleurs, la virgule en allemand a une fonction de subordination, pas simplement de parataxe. Donc ça, c'est tout la ruse de cette virgule, qui est une rupture, mais qui peut être une rupture d'articulation ou une vraie rupture. C'est-à-dire on met deux mots à côté, puis on ne les lit pas. Mais quand on passe de la principale à la subordonnée, on met une virgule. Donc elle a les deux fonctions en allemand. Donc forcément, en français, on ne va pas l'utiliser de la même manière, ça c'est certain. Puisqu'en français, la virgule n'est que la coordination, à savoir la juxtaposition, la position, etc.